Voilà, ce soir, je vais aborder un sujet qui est essentiel en réalité dans notre méditation et aussi dans notre vie, dans notre existence. Le sujet, les émotions. Depuis le début de la retraite, effectivement, vous mentionné ici ou là en entretien une émotion passagère et puis nous avons traité les pensées, nous avons traité les trois caractéristiques, l'investigation hier soir et je pense que c'est tout à fait judicieux que de donner une amplitude pour traiter ce sujet qui naturellement nous habite de manière fréquente, peu fréquente. Mais en tout cas, il est essentiel et il est très clairement mentionné dans l'enseignement. Donc, porter attention à nos émotions dans l'enseignement du Dharma, ici même, c'est éprouver des émotions simples ou élémentaires, sans les complications ajoutées. Donc, on voit bien que là, naturellement, ce n'est pas comme ceci qu'on, qu'on les traite. Donc, il y a un cheminement pour les traiter de manière simple, élémentaire. Donc, en tout cas, l'invitation, c'est de les laisser exister et de les accueillir comme elles se présentent. Il y a une mauvaise compréhension lorsqu'on croit qu'on doit chasser les émotions. Elles font partie de notre vie comme les pensées. Donc, il n'y a pas à les chasser. Nous allons pouvoir quelque part les rencontrer et puis naturellement avoir une attitude, une perspective, une relation qui est judicieuse, qui fait que on est moins pris dedans et surtout moins en train de les évaluer, les juger, avoir des préférences. Et avoir une attitude qui va à l'inverse de la rencontre. Donc là, il y a toute une perspective qui est absolument intéressante. Sandrine a mentionné ce sutra qui est tout à fait célèbre de la première flèche, et voire de la deuxième, et bien pour compléter, parce qu'il y a eu juste une mention, quand un étudiant... Et en difficulté, le Bouddha demande si, quand on est transpercé par une flèche, est-ce douloureux? S'il y a une deuxième flèche, est-ce encore plus douloureux? Bah, la réponse, elle est évidente, oui. Voilà, pour nous tous. Et donc, le Bouddha explique dans cet enseignement que dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler la première flèche. Qu'il va y avoir naturellement des émotions douloureuses, comme des sensations physiques douloureuses. On a beaucoup parlé de la maladie, de la vieillesse, même de la mort. Donc, cette deuxième flèche est une option, elle est facultative. Et quelle est la deuxième flèche? Cette deuxième flèche, c'est la réaction à la première. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir commencer à percevoir comment on n'ajoute peut-être pas simplement une deuxième flèche, mais une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième. Vous voyez, on les ajoute les unes aux autres. Et puis, naturellement que là, on n'est plus en contact avec l'émotion primaire. D'accord ? Donc, que sont les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes flèches ? Eh bien, c'est comparer, évaluer, juger, réagir. Voilà, tout ça, nous le connaissons très bien. Critiquer, nier, donc une grande part de notre exploration se situe à ce niveau-là. C'est pas, il ne devrait pas y avoir de deuxième flèche, troisième flèche, quatrième flèche. S'il y en a, eh bien, naturellement, nous allons pouvoir les rencontrer et remarquer ce qui se passe. Donc, notre perspective, là, est une perspective de cheminement. Beaucoup de fois, on ne prend pas conscience de la réaction. Donc, c'est le problème. Il n'y a pas assez d'investigation, il n'y a pas assez d'intérêt, de curiosité. Et ça, vous l'avez naturellement entendu à profusion. J'ai beaucoup aimé l'exposé de Sandrine hier soir, qui était très clair sur cette dimension de curiosité, investigation, un intérêt, plus qu'un effort surhumain. Avoir de l'intérêt pour ce qui se passe. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Parce que c'est exactement l'actualité de la vie. Ce qu'on rencontre, et c'est là que je trouve que ce chemin est absolument merveilleux, c'est l'actualité de la vie, les choses comme elles sont. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe. Et prendre conscience à ce moment-là de notre réaction, non pas pour l'alimenter, mais pour la percevoir comme elle est. Donc, deuxième phrase, troisième flèche, quatrième, il y en a peut-être eu 100 aujourd'hui. On en fout. Maintenant, cette souffrance associée à une émotion, et c'est très souvent le cas, c'est pas dû justement à l'émotion, et ça, il faut pouvoir le comprendre dans notre perspective de le vivre. Donc, la souffrance ajoutée, c'est la souffrance, c'est pour ça que le Bouddha parle ainsi, c'est la souffrance de la réaction par rapport à l'émotion. C'est justement le pas vouloir. La résistance, la réaction. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir, quelque part, être honnête, sincère, conscient de ce qui nous arrive et de la manière dont nous réagissons. Et une grande partie de l'exploration, elle va se situer à ce niveau-là. Alors, bien sûr que nous, on aimerait juste être là, serein, calme, voilà, comme le Bouddha, toujours le sourire. Voilà, on a des exemples absolument merveilleux, hein, quelles que soient les salles de méditation ou les lieux, maintenant même de wellness, hein, je veux dire, il a toujours cette représentation, bien que par moments, il peut en avoir d'autres. On a naturellement ici cette dimension qu'on devrait être serein. Serein, calme, tranquille, et qu'on est venu pour ça. Alors bien sûr que par moments, il y a des moments où on peut peut-être remarquer cette dimension, et j'espère pour vous, franchement, qu'il y a des moments où vous avez un peu plus de calme, de tranquillité, voire même de joie, et ça a été mentionné ce matin, la joie d'être ici, même de l'excitation, pour se rendre compte, waouh, c'est quand même extraordinaire de pouvoir être en présence de nous-mêmes, d'une manière aussi franche et longue, et commencer à vraiment percevoir les processus. Parce que là, ce qu'on invite à faire, c'est voir le processus à l'œuvre, le fonctionnement de l'esprit. Le fonctionnement de l'esprit, plutôt que simplement la résolution de mon problème avec lequel je suis venue, et peut-être que certainement je repartirai. Donc s'il y a énormément d'attentes, c'est pas là que ça se passe, mais c'est justement beaucoup plus profond dans le sens de l'intuition où on se dit, tiens, on devient familier avec ce qui se passe, reconnaître ce qui se passe et permettre à l'existence d'être ce qu'elle est au contact de la vie, qui est la totalité de la vie. Et les émotions font partie de notre vie. Donc, la liberté dans la pratique de la méditation vipassana, en tout cas, n'est pas d'être délivré de nos émotions, mais c'est au contraire d'être délivré de la saisie. D'accord ? D'être délivré de la saisie. De notre habitude, justement, d'agrippement ou d'aversion. Et naturellement, notre habitude de basée dans la confusion qui fait qu'on ne voit même pas qu'on est en train de saisir. Qu'il n'y a même pas une réalisation que, oh oui, là, tout à coup, ben, il y a une opposition, il y a de l'hostilité. Donc, c'est de ceci que nous sommes délivrés progressivement. C'est la saisie, car c'est la saisie qui est le plus gros problème dans notre existence. Chaque enseignement va aller dans ce sens. C'est assez simple, en réalité, parce que... On le comprend de plus en plus clairement. Aucune émotion n'est inadéquate. Youpi ! C'est génial ! Donc, la suggestion, c'est repérer justement cet écart entre une situation qui déclenche une émotion, et souvent cette situation, elle est extérieure, hein, c'est la cause. La cause, c'est l'autre, c'est la situation, c'est le travail, c'est le collègue. Voilà. Donc on reste extrêmement clairement défini par le problème, c'est l'extérieur, la condition extérieure. Il peut y avoir une situation qui déclenche, naturellement, tout un processus de difficulté intérieure. Mais ici, dans notre perspective, et naturellement que Sandrine en a parlé, on en a parlé aussi beaucoup la semaine dernière, plutôt que l'objet qui est la cause, c'est la simplicité de revenir à ce qui est ressenti. Donc vivre et ramener la présence attentive à ce qui est vécu, à ce qui est présent ici et maintenant. Non pas le pourquoi, la cause, l'autre, les circonstances, mais beaucoup plus simple. Tiens, comment est-ce? Comment est-ce cette émotion? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Vous voyez, donc là, il y a naturellement une suggestion qui est très différente de la vie habituelle. Nous, on veut résoudre les problèmes extérieurs. Et puis comme ça, on a la paix. Mais là, on ne dit pas tourner le regard à l'extérieur. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est tourner le regard à l'intérieur. Pour voir, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui est présent? Et là, il y a une possibilité d'une découverte qu'il n'y a pas habituellement. Donc je cite toujours cette phrase parce qu'elle m'est tellement parlante, je trouve, mais elle est tout à fait judicieuse, de Viktor Frankl, qui était un professeur en neurologie et psychiatre. Il dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. » Donc entre le réflexe et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté et notre pouvoir de choisir une réponse. C'est la présence. Cet espace, c'est la présence. Empli de sagesse. Donc, notre liberté, notre pouvoir de choisir une réponse est dans cet espace entre le stimulus et la réponse. Dans notre réponse, il dit, se trouve notre croissance et notre bonheur. Donc, c'est exactement ce qu'on découvre ici et maintenant, à chaque instant qu'on se rencontre, quoi qu'il y ait. Donc, sati, la présence, l'attention, et cet élément de sagesse qui discerne. Et ce discernement, il est essentiel. Je discerne ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Réactivité. Waouh. Ok, submergé, envahi par une émotion. Ok, c'est ça qui se passe. C'est tout simplement ça qui se passe, mais on doit quelque part le vivre. Donc, on identifie l'émotion présente. Et ce n'est pas toujours évident, parce que notre mode habituel, c'est soit on les met à distance en les refoulant, glisser sous le tapis, je ne veux pas voir, hein, voilà, mais elles sont là. Donc, on met bien des couvercles dessus, des couches et des couches, pour pas les ressentir. Donc ça, c'est une mise à distance. Mais une mise à distance qui fait que, quelque part, on les enfouit. Et l'autre manière, bien sûr, c'est le fait de les expulser. Donc, refoulement ou expulsion. Et on voit ceci à l'œuvre dans le monde. Je veux dire, combien on prend de circonstances où on voit tellement clairement que il y a une violence, une hostilité dans le monde à cause de ça. C'est inimaginable combien c'est expulsé, on agit, on les agit. Mais on va les agir si on ne sait pas comment les traiter. Donc vous voyez combien c'est important, mais ce travail-là m'est tellement précieux, ce que vous faites ici et ce que vous allez emmener avec vous, que naturellement vous allez peut-être pouvoir partager dans vos familles, au contact de vos amis, dans un milieu peut-être professionnel. Donc, c'est d'une valeur, mais immense. Plus il y a de clarté, plus il y a d'espace, plus il y a de capacité de pouvoir quelque part découvrir, tiens, qu'est-ce qui m'émeut? Une émotion, c'est quelque chose qui nous émeut, qui nous bouge, qui nous agite. C'est ça, une émotion. Et le terme pali, qui est kileja, veut dire exactement ceci, qui fait que on est secoué, on est bougé, voire bouleversé. Et donc maintenant, on peut se poser la question, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une émotion dans notre registre ici bouddhique? Eh bien, Il s'agit d'une constellation. D'accord ? Une constellation, c'est en partie naturellement des sensations physiques, où on sent que ce n'est pas simplement un picotement dans la gorge, par exemple, d'accord ? Mais il y a naturellement là un serrement dans la gorge, puis je me dis, oula, il y a une émotion, d'accord ? Ou bien un peu de poids dans la poitrine, on se dit, sur la poitrine, puis on se dit, oula, là, ce n'est pas un coup de froid, c'est qu'il y a de l'oppression. Donc on sait très bien, quelque part, comment se présente, comment, quelque part, on peut remarquer, ressentir la dimension qui fait que oui, il y a une sensation, à cette sensation est reliée une émotion, physiquement. Donc il y a un impact là, d'accord ? Et naturellement qu'il y a Vedana là, hein, ça peut tout à fait être remarqué, une évidence, hein, désagréable avec plein de coloration. Puis il y a des pensées, donc c'est une constellation. Il y a des pensées, naturellement, qui sont là. Pensées de peur, pensées de tristesse, pensées de désir attachement. Voilà, donc ce n'est pas aussi franc que les sensations physiques. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant d'appliquer vraiment l'investigation dont on a entendu parler hier soir. Investiguer pour savoir, tiens, comment ça peut quelque part se manifester. Par moments, c'est très clairement dans le physique. Pour certaines personnes, vous allez dire, ouh là là, ouh, ça grouille dans mon ventre. Ouh là là, ça grouille. Et puis à un autre moment, c'est, ah, la pensée, tiens, ça grouille dans mon ventre, il y a quelque chose là qui me fait un petit peu peur. Donc voilà, il y a l'imaginaire qui prend aussi sa place. Et dans ce sens-là, eh bien, on va remarquer qu'il y a une dimension de composition, une constellation. Porter son attention là où c'est le plus clair pour nous. Maintenant, il y a des personnes qui disent « Bon, ben moi, je n'ai pas vraiment d'émotions, hein, elles ne sont pas vraiment là, voilà. J'y sens pas, de quoi elles parlent ce soir ?» Eh ben, écoutez, s'il n'y en a pas, on ne va pas commencer à creuser. Hein. On ne prend pas la pelle pour la verre. Oh, mais je vais aller... Non, on les prend compte lorsqu'elles se manifestent. On est bien d'accord, comme toute expérience. Nous ne sommes pas là à essayer de... chercher et vraiment s'imposer un état. Donc, les refouler ou les agir pour s'en séparer, c'est quelque part basé dans l'ignorance. C'est que quelque part, on n'a pas, quelque part, éclairé la dimension de la sagesse. Et tant qu'on a ces modes de répulsion, boire... de les agir sur autrui, insulter quelqu'un par exemple, eh bien, il y a là, qu'est-ce qui est à l'œuvre ? L'ignorance, la confusion. Voilà, donc quand on commence à méditer, il y a beaucoup plus de sensibilité, du coup on commence à remarquer, tiens, mais qu'est-ce qui se passe en moi ? Et comme nous avons aussi le développement des ressources, telles que la présence, telle que la bienveillance, telle que la patience, dont on a parlé la semaine passée, la douce persévérance, j'aime beaucoup ce terme, de douce persévérance, à ce moment-là, on peut s'accompagner dans notre chemin et aussi vraiment avoir le besoin de trouver nos ressources, de les repérer, de les cultiver. Par exemple, la bienveillance, par exemple, la compassion, de toute évidence, l'investigation, la présence attentive et bien d'autres sources. Progressivement, on va plus pouvoir être un tout petit peu plus en capacité de les rencontrer. Pema Chodron a cette magnifique citation qui dit « Des sentiments comme la déception, l'irritation, la colère ou la peur » au lieu d'être des mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseignent ce que nous refoulons. Qui nous enseignent ce que nous refoulons. Donc on éclaire le chemin. Et puis même si on a été dans l'obscurité pendant des années et des années, ça n'a aucune importance. Et ça, j'ai pu le vivre, je peux vous dire. Un moment de clarté ou les milliers d'années d'obscurité, puisque le passé est passé. Mais ce moment de clarté-là, eh bien, il transforme. Il nous transforme. Il a ce pouvoir de transformation. Donc si on commence à se dire, oh non, mais oh, ça fait tellement d'années, non, non, non. Vivez l'instant présent. Et rendez-vous compte combien il est gratifiant quand on commence à pouvoir y voir clair. Cette forme de liberté dont on parle ici se situe toujours au présent. Donc on n'a pas de regret à avoir. Il y avait une dame qui avait 70 ans et qui commençait le chemin, il n'y a pas très longtemps, dans une retraite. Puis elle était là, oh, tellement triste de le commencer à cet âge-là. Je dis, mais réjouissez-vous, c'est extraordinaire. Peu importe ce qui s'est passé avant, elle me dit, oh, mais j'ai envie de vivre chaque pilule, chaque retraite, je vais venir et tout, tant que je suis en forme. Et c'est évident qu'elle avait peut-être attendu longtemps pour quelque part rencontrer le chemin, parce qu'elle disait, mais c'est de la pratique. Et en réalité, c'était une psy, cette dame. Elle disait, mais moi, je connais tout en théorie. Voilà. Mais là, le fait de me faire face, mais en silence, ça a été vraiment quelque chose d'assez merveilleux en tant que témoin de la situation. Donc, peu importe le temps écoulé. Donc, je vais prendre quelques exemples d'émotions troublantes. Le premier, c'est le désir attachement ou le désir attente. On se dit, ah, une émotion, ben oui. C'est évident qu'en en retraite, vous avez pu remarquer, vous avez eu un petit peu de désir attente ou de désir attachement aujourd'hui. Normal. Voilà, donc ce désir attente, eh bien, naturellement qu'on peut penser à un autre lieu, à une personne, il y a un petit peu, quelque part, de souffrance dans le sens de vouloir être ailleurs. On en a aussi parlé. Et le scénario dit, si j'étais là-bas, mais je serais tellement heureux, mais tellement bien. Puisque je ne suis pas là-bas, eh bien, je suis malheureux. Et on réagit à ce qui se passe. C'est tellement extraordinaire. À Pian de Sileggi, là où on enseignait pendant des années avec Charles, en Italie, c'est un très beau lieu, mais il faisait un été très chaud. Et c'est en fait cette histoire qui m'a rappelé, c'est comme pire que maintenant. Pas le petite brise là, non, non. Vraiment très chaud. Et puis, bah forcément, les yogis, les méditants étaient italiens et on l'était traduit. Et puis lui, il s'était inscrit à la dernière minute et il avait vraiment pas envie d'être là. Deux entretiens, je veux pas être là, je veux pas être là. Puis je lui dis, mais enfin, quelle est la raison? Puis il dit, ben, en fait, mes amis, ils sont aux Caraïbes. Dans la mer. Et moi, j'y suis pas parce qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. Jusqu'au dernier moment. Et je finis dans cette retraite. Je peux comprendre qu'il n'ait pas eu envie d'être là. Puis je lui dis, mais c'est super. Voilà, toujours positive. Réjouis-toi. Travaille avec le désir attachement. Alors, ah bon, c'est possible et tout. Et puis j'ai dit, oui, vérifie la pensée répétitive. Je ne suis pas heureux d'être là, je ne suis pas heureux d'être là. Et en fait, il voyait bien que ce scénario, bah, il tournait en rond au niveau de sa pensée. Plus il alimentait la pensée, moins il avait envie d'être là. Ça, c'est évident. Voilà, donc ça, on le sait. Mais quand on commence à explorer ça de l'intérieur, d'accord, eh bien, il a commencé à se rendre compte l'empêchement qu'il avait au niveau de ses pensées qui l'empêchaient de pouvoir vivre le moment présent. Donc l'objet extérieur, c'était les Caraïbes, les amis, voilà, la situation là-bas. Et je lui ai dit, tourne l'attention sur ce qui se passe en toi-même. Le désir attachement. Comment c'est le désir attachement? Intéresse-toi, investigue, qu'est-ce qui se passe? L'entretien suivant, puisque c'était quand même long aussi, 15 jours, hein, il arrive un grand sourire. J'ai eu une prise de conscience. Insight. Immensément important. Il a dit, ce que je vis là, je le vis tout le temps dans ma vie. Je veux toujours être ailleurs. Je ne suis jamais satisfait de là où je suis. Waouh ! C'était incroyable pour lui de découvrir que de cette situation-là, eh bien, il a pu remarquer que cette tendance à vouloir être complètement ailleurs que là où il se trouvait, eh bien, était une habitude, un conditionnement, on peut dire, hein, parce que souvent on utilise ce terme de conditionnement, et puis qu'en réalité, il pouvait l'explorer. Et je vous assure que cette personne a réalisé quelque chose de si profond qu'il ne pouvait plus quitter la salle de méditation lorsqu'on sonnait le gong. Il était là. Waouh ! Impressionnant ! Il s'est passé quelque chose ! Ben voilà, c'était le bon moment, juste, mais il a quelque part relevé le défi. Hein. C'est ça, quand on dit se mettre en jeu, ben, il a relevé le défi, puis il s'est dit, bon, il y a quelque chose vraiment là que je dois regarder, prendre et autres. Et puis c'est très intéressant parce que ben, ça se passe peut-être à un moment donné pour nous-mêmes, puis peut-être ça se passera demain, à un autre moment. Mais si ça se passe, c'est un éclairage incroyable. C'est un moment de libération fantastique. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus ses pensées, parce qu'on a des habitudes. Hein. Mais ça laisse une empreinte tellement forte dans l'être que ça change quelque part le regard. Deuxième type d'émotion souvent, c'est la colère ou l'aversion. Bien sûr qu'il y a le désir attachement d'un côté, le colère-aversion, qui englobe beaucoup d'autres types d'émotions. Hein. Je ne peux pas toutes les nommer tellement il y en a. Le ressentiment, la frustration. Voilà, là, c'est un petit peu moins agréable que le désir-attachement parce qu'on n'est pas en train de rêver à mieux. Quelque part, on a cette dimension-là d'être mal avec ce qui se passe. Donc, on a physiquement de la crispation, souvent dans les mâchoires ou dans les mains. Et puis, on peut commencer là. La crispation, les tensions corporelles, sont extrêmement intéressantes à remarquer et de voir s'il n'y a pas un élément émotionnel. On croit, on se dit, ouais, ben, je suis juste tendue, en fait, corporellement. Ou j'ai une tension dans le dos. Non, ben, y a peut-être quelque chose là qui est dessous puis qui dit, ouh là là là, c'est un ressenti physique, mais ça peut aussi naturellement être recouvert d'une émotion. Donc, c'est possible, si on est perdu dans les pensées, qu'on ne se rende pas compte du lien entre les pensées qu'on alimente très facilement, le pourquoi je suis en colère. Hein, j'ai bien des raisons d'être en colère, c'est clair. Et ça, on ne le renie absolument pas. Il y a à nouveau une situation extérieure qui déclenche, comme on dit. Naturellement que là, les pensées, c'est du ressassement. Pourquoi cette personne m'a fait ci? Pourquoi elle m'a blessée? Voilà. Et on alimente un certain niveau. Et quand on alimente ce niveau des pensées, on est perdu dedans. Et quand on est perdu dedans, on ne se rend pas compte qu'on alimente le récit et du coup on alimente l'émotion. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est tellement important de pouvoir quelque part mettre le bouton pause et puis se rendre compte, tiens, qu'est-ce qui se passe physiquement? Et très souvent, on se rend compte, il y a de la crispation, il y a quelque part un sentiment de constriction dans un lieu physique qui m'indique que peut-être il y a effectivement de l'irritation, de la frustration, voire de la colère. Et on l'alimente comment? Par le biais des pensées. Ce qui veut dire qu'on veut se séparer à ce moment-là de l'émotion qui nous fait souffrir. Donc on la met à distance et puis on reste avec le scénario. Il m'a fait ça et en plus j'ai vraiment bien raison d'être en colère. Donc je vais la justifier. Donc il y a là une sous-couche d'auto-justification qui fait que je reste dans un figement. Je suis figée là. Figé dans le sens que il n'y a pas de possibilité d'espace. Ça peut être vrai, mais en attendant, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui perpétuons quelque part cette relation non pas à percevoir l'émotion elle-même, mais le pourquoi et la raison pour laquelle on est dans cette situation. Donc, à nouveau, simplifier dans le sens de « waouh, c'est pas pourquoi, c'est comment ». Comment est cette colère? Comment est cette irritation? S'y intéresser. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment elle s'exprime? Et s'en approcher, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, on peut avoir plein de cheminements, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas le chemin tout droit. On peut passer là, on peut aller là. Donc ça veut dire qu'on peut revenir à la zone d'ancrage, on peut prendre les sons, on peut naturellement élargir le champ de l'attention pour donner de l'espace, pour pas justement nourrir et alimenter le serrement et le fait d'être complètement replié. Il y a mille manières là de pouvoir quelque part, ici on dit gérer. Donc là c'est de la gestion. La gestion de comment on va pouvoir être en relation pour aller dans le sens souhaité, c'est-à-dire s'approcher, la rencontrer. Donc il y a là une dimension d'apprivoisement. J'aime beaucoup ce terme d'apprivoisement quand il y a les émotions difficiles, surtout quand elles brûlent. La colère, ça brûle. La haine, ça brûle. Et le Bouddha le dit très bien, il y a une phrase extrêmement célèbre qui dit « Avec l'intention de le jeter sur l'autre en ramassant un morceau de charbon ardent, on se brûle soi-même. » Donc c'est nous-mêmes qui nous brûlons, avant même que ce morceau de charbon ardent atteigne l'autre. Donc le pourquoi je suis en colère est un niveau, le niveau justement du narratif, du récit. Dans la mesure du possible, le laisser de côté pour prendre en compte la sensation de l'émotion elle-même. Donc là, on n'est pas en train de détourner la présence sur l'objet du pourquoi, mais vivre, diriger vers l'intérieur à nouveau pour rester au contact, en ayant plein de ressources pour quelque part se resituer. C'est vraiment des bribes par bribes, des petits moments par petits moments. Absolument rien en une fois. Donc le comment. Le comment est très aidant. Et s'il y a beaucoup de bouillonnement, parce que là, quand on a la colère souvent, moi je sais que, waouh, c'est une émotion que je connais bien, hein, parce que, voilà. On a chacun une nature. Et ouf, ça bouillonne, rien que d'en parler là, vous voyez, pouf, voilà. Forcément qu'on ressent de la chaleur et ça nous agite. Donc c'est tellement intéressant de se rendre compte que là, il peut y avoir l'irritation et on peut très vite être dans une situation où on est en porte-à-faux parce que l'impulsion est plus rapide que la présence. Là, ce sont nos impulsions, nos réflexes. C'est, voilà, il y a un striker, comme on dit, réflexe qui fait que... Voilà. Donc, on apprend vraiment, on apprend. Et plus on apprend, plus on arrive à avoir une dimension de pouvoir la vivre sans l'agir. Ça prend du temps. Mais cette énergie de la colère, elle peut parfois nous emporter quand on l'explore. Alors, prudence. Vraiment prudence quand vous êtes au contact de vous-même. Ne vous brûlez pas vos propres ailes. D'où le recul. D'où metta, qui aide immensément, c'est l'antidote à tout ce qui est de l'ordre des émotions difficiles. Vraiment un antidote incroyable, parce que c'est l'eau. Vous voyez, autant la colère, l'irritation, tous ces éléments-là, c'est le feu. Et puis, metta, c'est le lubrifiant, c'est l'eau. Donc, d'avoir naturellement cette capacité de dire « Tiens, waouh, la colère, la sensation de brûlure et autres », et d'y amener, c'est pas remplacer, c'est d'y amener un petit peu de douceur, de gentillesse, bah, ça change complètement, en réalité, le vécu, ce qui est éprouvé. Voilà, donc plutôt que d'ajouter du fioul au fioul, alimenter le feu, non, on va dans le sens inverse. La dernière, c'est la peur. Et cette émotion-là de peur, ben, elle a beaucoup, beaucoup de formes aussi. Et elle est assez fréquente de nos jours. On a beaucoup de raisons d'avoir peur. C'est évident. Voilà, donc l'objet de la peur peut avoir vraiment, vraiment de multiples formes. En méditation, puisqu'on reste quand même très lié à ce qui se passe ici et maintenant, une des peurs qui fait qu'on reste justement dans les pensées, dans le narratif, c'est quand il commence à y avoir des changements de perception. Je ne sais pas si vous les avez eus, mais quand on a les yeux fermés et puis que naturellement on est beaucoup plus au contact des sensations physiques, tout à coup, ben, il se trouve que par moment, on perd notre image habituelle du corps. Perception de l'image de mon corps, ben, elle est juste quelque part plus là. Pourquoi ? Parce que je suis dans les sensations, ce n'est pas que mon corps est plus là, hein. Vous ouvrez les yeux, j'espère que vous voyez bien que vous êtes encore assis. Mais il y a juste un changement de perception, voyez ? Et ce n'est pas qu'il n'y a rien. On dit, oh là là, ça me fait peur. Ça me fait peur, c'est quoi ça ? Voilà. Ben, on commence à ressentir les sensations dans le corps et on se rend compte qu'il y a la dissolution de la représentation du corps, tel qu'on se le représente. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, on n'a plus la forme, mais on a le ressenti. Et plus on va aller dans le sens du ressenti, on investigue ça, et dans ce cheminement, eh bien, c'est exactement là qu'on va découvrir, tiens, oula, ok, non, non, je reste dans mes pensées, et souvent c'est un refuge, les pensées, à cause de ça. C'est un drone.
Ouais.
Ah, voilà. J'allais dire, est-ce qu'il nous prend en photo ? Voilà, donc c'est extraordinaire cette dimension de peur où on est, ouais, c'est la limite de ce que je peux supporter, d'accord ? De ce à quoi je peux m'ouvrir. Et puis on reste là, on fréquente cette zone-là, c'est ok, là c'est accessible, puis c'est là tout à coup, ok, mais je suis là, et on trouve l'aise, et plus on trouve l'aise, c'est extraordinaire parce que ça change, puisqu'il y a de l'impermanence. Donc cette impermanence fait que bah, ce que je ne pouvais pas découvrir il y a peut-être 10 retraites, aujourd'hui je peux le découvrir parce que je suis plus à l'aise, parce que je suis plus en capacité d'avoir confiance et ma limite s'est déplacée, tout simplement. Donc je vais découvrir peut-être des choses un peu nouvelles. Voilà. Et puis c'est génial parce qu'il y a moins de saisie du coup. Donc ma pratique progresse. Et donc on travaille avec la peur. Dans ces moments où il y a tout à coup un truc là, ouh, voilà. Et c'est génial. Il n'y a pas à dépasser la limite. Au contraire, c'est rester exactement en phase avec là où je me dis, ok, ça, c'est la limite. Mais le savoir, à nouveau en prendre conscience. À dire, tiens, ok, là, je suis ok. Et je vis, là, je vais naviguer dans cette zone de présence. Alors, dans cette perspective-là, bah, comment se manifeste la peur ? Autant la colère brûle, le désir attachement, c'est on a tellement l'envie de, et puis ça penche en avant. La peur, c'est comme si, en tout cas pour moi, c'est comme si le sol se dérobait. Il y a comme là, waouh, on n'a plus de sol. C'est ça, c'est fragile. On sent qu'il manque de terre. Donc là, c'est très important de retrouver la terre. Non pas l'eau, mais la terre. Il y a toujours la terre. Voilà, donc on peut naturellement aller à ce moment-là rencontrer quelque part la marche, les pieds sur le sol, ancrage. Moi, c'était un compagnon de route, mais tellement fort la peur, c'est certainement la peur qui m'a fait commencer le chemin et avec laquelle j'ai cheminé vraiment tellement, tellement, tellement longtemps. Et puis, l'invitation, et je vous la transmets de mon maître, c'était « Vois si tu peux rester avec les sensations physiques. » Parce que c'est évident que quand il y a de la peur, les pensées, c'est l'imaginait et on s'imagine le pire. Autant la colère et autres, c'est on ressasse des vieilles histoires, la peur, c'est la peur de l'avenir, de ce qui pourrait être, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on envisage d'horrible. Donc il y a un manque de stabilité. Et très souvent, j'étais là, waouh, sueur froide, waouh, peur, vraiment, moiteur des mains, tellement de fragilité. Et c'est ça, c'est un manque de solidité, c'est tellement intéressant. Et puis de se laisser quelque part vivre ça, tout en ayant conscience, oui, il y a un sol, oui, c'est ok, il y a la présence, il y a la confiance. Donc ce scénario, non, le moment suivant, c'est pas possible, il y a quelque chose de désastreux qui va arriver, le percevoir comme une pensée, parce que c'est une pensée. Et donc ça, c'est génial. Il y a une découverte qui est assez extraordinaire, c'est que, à nouveau, là, c'est pas la peur elle-même, c'est justement la dimension de la troisième, dixième, vingtième flèche qui dit « je peux pas ». C'est ça, la réaction là, c'est la résistance à sentir. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est pas la peur elle-même, c'est la peur de la peur. La peur de la peur. À ce niveau-là, on n'est pas avec l'expérience présente. C'est la peur qu'on ajoute à la peur. Donc ça, c'est la flèche. C'est-à-dire, oh, wow! Pema Chodron, elle a une histoire qu'elle raconte souvent. Elle dit, quand son maître spirituel lui dit un jour, si tu veux surmonter ta peur, parce qu'elle, elle parle beaucoup, beaucoup de la peur, elle a aussi... Vous voyez qui c'est, Pema Chodron, cette grande maître dans la tradition de Chogyam Trungpa. Et son maître lui dit, si tu veux surmonter ta peur, tu dois marcher vers elle. Tu dois marcher vers elle. Donc c'est exactement ce dont on parle, hein, d'aller à la rencontre. Et donc il lui dit, c'est très bien. Ici, proche de ce monastère, il y a un lieu où il y a un grand chien féroce. Et il était au bout d'une chaîne et il aboyait forcément à chaque passage. Voilà. Et donc son cœur battait toujours plus fort. Et puis un jour, le maître lui a dit maintenant, ta pratique, tu vas vers le chien. Au lieu de l'éviter, de faire un grand détour. Et c'est très intéressant, parce que tremblante, elle fit un pas. C'est elle qui raconte, hein, puis un autre. Puis elle avance. Et plus elle avance, le chien grogne forcément. Mais quand elle s'approche tout près du chien, eh bien, il cessa tout soudain d'aboyer. Et puis, il a remué la queue. Parce qu'elle y allait calmement. Elle y est allée calmement, doucement, avec tranquillité. Parce qu'elle, elle n'était pas capable de foncer vers le chien. Et c'est intéressant parce que ça a vraiment affecté, quelque part, cette rencontre. Et c'est exactement comme ceci qu'on peut approcher la peur. C'est un magnifique exemple pour dire tout doucement, tout doucement. Ah ouais, oh ma peur, je t'apprivoise. Donc qu'est-ce qui change là? C'est un chemin totalement inverse. Notre mode habituel, c'est fuir. On fuit. Quand il y a de la peur, on fuit. C'est la fuite qui se passe la plupart du temps. Donc là, plutôt que de fuir, c'est s'en approcher, la fuite nourrit la peur, s'en approcher la transforme. Ça la transforme. Donc voilà, pour terminer, dans le Satipatthana, ce texte qu'on peut dire est le manuel de méditation, hein, c'est très simple. Franchement, pour chaque expérience, c'est très simple. Le méditant, la méditante, contemple si l'esprit est affecté par la peur, il sait ou elle sait, l'esprit est affecté par la peur. Voilà, reconnaît comme tel. Si l'esprit n'est pas affecté par la peur, il sait, elle sait, l'esprit n'est pas affecté par la peur. Donc on a conscience là de l'impermanence. Ça veut dire que ça change. Par chance, on n'est pas toujours dans la peur, on n'est pas toujours dans la colère, donc on a naturellement le changement. et on continue calmement de connaître le changement au contact de chaque expérience. Et donc, cette invitation, qui est vraiment dans le manuel, dans la partie des émotions ou des formations mentales, il sait si l'esprit est affecté par la joie, elle sait si l'esprit est affecté par la joie ou l'absence de joie. De même pour la colère, de même pour toute émotion. Donc là, il y a une simplicité, c'est-à-dire que dans cette présence attentive, emplie de sagesse, on perçoit les choses comme elles sont. Elles vont, elles viennent. Tous ces états mentaux, comme on peut les appeler, sont passagers. Ils sont complètement passagers. Ils viennent, ils passent. Ils viennent, ils passent. Si on les saisit, eh bien à ce moment-là, c'est exactement par la saisie qu'on les confine et qu'on les maintient. Donc déjà comprendre ça intellectuellement, c'est génial. Maintenant le vivre, waouh ! Voir comment ça apparaît, comment ça disparaît, comment ça bouge, comment ça évolue. Et vraiment l'invitation, c'est laisser apparaître et disparaître. Donc d'un côté, pas d'agrippement, pas d'aversion. En dessous, pas de confusion, de la clarté. Donc on est là pour pratiquer, c'est génial, parce que je crois qu'on a vraiment ici une disposition, et même si les conditions sont un petit peu peut-être difficiles à cause de la chaleur, je peux vous dire qu'ailleurs c'est pire. On est encore à l'altitude, mais si on regarde, c'est waouh, incroyable. Voilà, donc on peut naturellement ici se mettre dans une disposition d'investigation. Donc le premier changement dans l'attitude, c'est investiguer plutôt que de vouloir s'en séparer. L'investigation, exactement comme ça a été mentionné hier, c'est le point principal. Et cette présence, elle investigue s'il y a de la curiosité. Écoutez ce que dit le récit. Quelle est l'histoire que je me raconte? Quelle est l'histoire que je ressasse? Et puis ensuite, tranquillement, pouvoir aller au contact de l'émotion. Donc apprendre à les approcher, la manière dont j'ai pu le dire, tranquillement. En ayant plein de moments de ressourcement, de revenir, beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les résistances. Il y a de la résistance, du respect. Mais du respect, ça ne veut pas dire la fuite. Ça ne veut pas dire de la résignation. Vous voyez, on continue d'être engagé. Puis le deuxième changement, qui est le dernier, c'est dans la découverte de ce qu'on apprend. Comme ce yogi italien, qui quelque part a découvert « Waouh, j'ai vraiment appris quelque chose d'essentiel. » Ou cette dame qui a 70 ans, je crois. C'est apprécier qu'il y a une découverte d'apprendre quelque chose. Et dans la nature de chaque expérience, eh bien, il y a des caractéristiques. Et que ces caractéristiques-là, eh ben, elles sont universelles. Lorsqu'on parle du chaud, on sait tous ce que c'est que le chaud. Le chaud est chaud, le froid est froid. Lorsqu'on parle de la nature de la tristesse, on sait tous à quoi ça se réfère. Donc c'est universel, il n'y a rien de personnel. Et donc on peut découvrir quelque chose d'extrêmement important au niveau des caractéristiques. Et finalement, toutes ces émotions sont impersonnelles, dans le sens qu'elles n'ont pas besoin de nous définir. On n'a pas besoin de se les approprier. Qu'est-ce qui fait qu'on dit « c'est ma tristesse, c'est ma colère » ? La pensée. Quand on s'approprie une émotion passagère, c'est que c'est à moi que ça arrive, bien sûr, mais elle n'a pas besoin de nous définir. Donc si elle ne nous définit pas, je suis une personne colérique, et puis de toute façon, j'en changerai pas. Ben là, il y a le figement, hein, c'est waouh, ouais, possibilité de transformation, pas vraiment là, quoi. Donc, l'apercevoir d'un espace d'ouverture, dire waouh, ok, j'ai pas besoin de voir les choses en termes personnels, c'est à moi. Et puis en plus, le récit, c'est ah ouais, ma mère, elle était colérique du coup, forcément, j'ai pris son trait de caractère, et puis je suis comme elle, quoi. Voilà, ouais, voilà. Donc, Là, il y a du figement. On prend un chemin complètement inverse. Donc, la manière dont on se découvre est quelque chose d'essentiel, en fait. Donc, cette présence est comme un miroir qui reflète simplement ce qui se présente à lui d'instant en instant. Voilà, je vais terminer avec un petit poème de Dana Fultz qui s'intitule « Marcher lentement ». Il suffit d'un rappel de respirer, un moment pour être immobile. Et juste comme ça, quelque chose en moi s'installe, s'adoucit, fait place à l'imperfection. La voix dure du jugement tombe à voix basse. Et je me souviens encore que la vie n'est pas une course de relais, que nous franchirons tous la ligne d'arrivée, que se réveiller à la vie est ce pourquoi nous sommes nés. Autant de fois que j'oublie, me surprend à avancer sans même savoir où je vais. Autant de fois, je peux faire le choix de m'arrêter, de respirer et d'être et de marcher lentement dans le mystère.